Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes autour de la table du studio. Aujourd'hui, en compagnie de Cristiano, Dominique, Anouchka, Ramzi, Manon, Nathalie, Christian et Christine. Et ce sont Dominique et Julien qui veillent à notre confort radiophonique. Merci à vous toutes et tous d'être là. Et merci à Mauro Capelli qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Mauro est notre invité fil rouge. Et donc, ce que je vous propose à vous toutes et tous qui êtes là, c'est de vous saisir du micro et de lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Libre à lui d'y répondre ou de vous poser aussi des questions. Il ne vous a certainement pas échappé que nous sommes entrés dans la période des fêtes de fin d'année et nous nous sommes dit à Pavillon Nomade qu'il serait bien d'avoir autour de notre table un grand chef. Et donc, Mauro Capelli a traversé la ville de Monthey pour nous rejoindre et peut-être nous donner quelques recettes à concocter pour ces fêtes. Son restaurant, c'est celui du Théâtre à Monthey, un restaurant qui a obtenu 17 points au Goemio, un guide gastronomique réputé. 17 points, ça équivaut à 4 tocs, c'est juste ?
C'est ça, oui.
Comment est-ce que vous faites pour les faire tenir sur votre tête, ces tocs ?
L'une sur l'autre. Bon, on les rapte ici. Bon, aujourd'hui, les cuisiniers travaillent sans tocs dans les cuisines. Des fois, on met des protections si on a des longs cheveux, mais sinon, c'est plutôt assez cool, on va dire, comme ça, l'aspect extérieur. Après, il faut avoir les cheveux courts, etc. Mais bon, aujourd'hui, les cuisiniers ont facilement des tatouages. Alors, quand ils ont les bras, c'est un peu l'époque a changé. C'est vrai qu'avant, la brigade de cuisine était très stricte avec un habit, avec la toque, avec le foulard. Il faut dire aussi que les conditions de travail sont mieux aujourd'hui. On travaille avec de l'induction. Il fait plus très chaud dans les cuisines. On a plutôt des températures autour des 20-22 degrés. C'est terminé. Les cuisines, comme j'ai connu, on avait des 50 degrés en permanence. Donc, on devait être plus habillé. Ça change aussi. Donc, aujourd'hui, on s'habille plutôt légèrement. Et puis, voilà. Mais plus de toque, malheureusement.
C'est vrai.
Moi, je l'ai porté un peu au début dans ma carrière de cuisinier. Mais c'est vrai que c'était assez spectaculaire. Mais quand on est cuisinier, c'est embêtant. C'est une contrainte en plus. Voilà, c'est un uniforme.
On va commencer par le début, Mauro Capelli. Vous avez une manière originale de vous présenter. Vous dites qu'en 2057, vous aurez 100 ans.
Oui, c'est une boutade par rapport au temps qui passe trop vite. Il a déjà passé trop vite. Puis c'est vrai que ma vie de restaurateur, cuisinier aujourd'hui restaurateur, c'est une vie qui, c'est des feuilletons qui s'alignent et on ne voit pas le temps passer. Donc c'était une façon de dire je suis toujours là ou je serai toujours là avec vous en pensée en tout cas.
Ici et maintenant, aujourd'hui vous avez 68 ans et ma première question c'est est-ce que comme Obélix vous êtes tombé enfant dans la marmite ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui faisait très très bien à manger et puis j'étais passionné par la cuisine. Et puis je pense que j'avais un don aussi pour la cuisine. Donc automatiquement, j'étais attiré. Puis quand je faisais des petites recettes quand on est enfant, je les réussissais, je les trouvais bien. Je rentrais de l'école, je me faisais des petites fondues au fromage. Puis j'essayais, donc voilà quoi.
Oui, Cristiano, prenez le micro.
J'avais une petite question avec ce que vous venez de dire. C'est à quel âge vous avez commencé à cuisiner ?
Alors très vite. C'est-à-dire que 5-6 ans, je faisais déjà des choses en cuisine, j'aidais ma maman. Et puis à l'époque, on était des ouvriers dans la famille, mes parents. Donc mes parents travaillaient. Et dès que j'étais à l'école en première année, je rentrais de l'école plus vite. On sortait à 11 heures. J'allais chercher le pain et je devais réchauffer le dîner. Donc j'avais, je pense, 6 ans et demi. Ce serait plus tellement aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. On ne discutait pas. Puis ça ne me gênait pas. Je pouvais moins jouer au foot avec les copains. Je devais rentrer à 11h25, je devais vite rentrer.
Est-ce que vous aviez déjà, à 6 ans, l'idée, vous envisagez déjà de faire de la cuisine votre métier ?
Non, on ne peut pas se projeter comme ça. J'ai décidé d'entrer dans la cuisine. C'est un peu comme on entre dans les ordres. J'avais 20 ans. Donc avant, j'avais suivi plutôt une formation, la formation classique, où on fait un gymnase, on essaie un peu l'université, et puis voilà. Puis j'étais moyennement satisfait, j'étais très attiré par la cuisine. Je voulais toujours garder cette cuisine comme un hobby. Mais ça m'a pris. Ça ne m'a pas mangé, on va dire, ça m'a pris. Puis je suis très heureux dans ce monde.
Oui, Christine.
Oui, ben moi, j'ai perdu mon père à 6 ans. Ma mère travaillait comme une folle. On était obligés de se débrouiller pour faire à manger. J'avais une sœur de 5 ans et demi et une sœur de 8 ans. On a vite appris la cuisine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes enfants ont appris la cuisine en me regardant cuisiner. Et maintenant, c'est des vraiment top chefs de cuisine. J'ai été mariée 2 ans avec le directeur de l'hôtel Semiramis Intercontinental du Caire. Alors, comme je faisais la vaisselle, je prenais les recettes à mesure. Et ce soir, j'ai 3 recettes à vous apprendre, très faciles.
Alors, on va détailler ça. Vous nous dites ça après, d'accord. J'avais juste encore envie de poser une question aussi à Mauro Capelli. Si je vous demande une senteur de votre enfance, quelle serait-elle ?
En cuisine, pas vraiment. Alors, j'en ai une, parce que moi, j'avais un plat fétiche, c'était le strudel aux pommes. Ma mère était du Trentin au Tadige, donc elle faisait la choucroute et le strudel. Et c'était toujours mon vœu pour mon anniversaire, qu'elle me fasse un strudel. Alors le strudel, quand il sort du four, il a coulé un peu, ce jus de pomme, ça a coulé, ça a caramélisé, ça avait une odeur incroyable. Ça, je me souviens toujours de cette odeur. Il y en a d'autres.
Et si on fait un petit tour de table, la senteur de votre enfance, je ne sais pas, Ramzi ?
Alors moi, c'est les lasagnes. C'est vraiment un plat que je trouve excellent. Et facile à faire, voilà.
Anouchka, peut-être ? La senteur ou un plat de votre enfance ?
Alors, moi, je me souviens de ma grand-mère qui faisait des tartes au potiron. C'est la seule chose que je me souviens, que j'adorais. Je ne sais toujours pas, elle m'avait donné la recette. Je l'ai oubliée, malheureusement. Donc, chose à redéfinir, à rediscuter, mais voilà, c'est ce qui me reviendrait à la limite maintenant.
Peut-être c'est une discussion à avoir avec Mauro Capelli, une tarte au potiron.
Au potiron. Elle a ça doit pas potiron, être impossible à la courge.
À faire. Hein.
Non, c'est pas impossible.
On va y revenir. On va y revenir. Oui, Nathalie.
Dans mon côté, ça serait plutôt l'odeur de la bolognaise de celle de ma maman. Et le ragoût.
Simplement. Manon, éventuellement, non, pas une... Dominique ? On fait un petit tour de table.
Oui, alors, le fait qu'on ait du patrimoine en montagne, le week-end, en général, on faisait notre bonne raclette.
Ah ben voilà. Cristiano.
Moi, personnellement, honnêtement, j'en ai 2. J'ai un truc un peu plus sucré et un peu plus salé. Le truc un peu plus salé, c'est la ratatouille, que ma arrière-grand-maman faisait excellemment bien. Et puis, mon dessert préféré, que j'adorais sentir l'odeur à peine sortie du four, c'est les pastels de nattes. Je vais dire un petit truc qu'il ne faudrait pas, mais pour les Français, c'est plus les petits flans portugais.
Ah oui, mais là, vous nous mettez l'eau à la bouche avec tous vos plats. Christine ? Faut prendre le micro, oui.
Alors, je dois vous dire pourquoi je suis tombée à pieds joints dans la nourriture végane. C'est parce que j'ai 4 enfants. Le premier, c'était un carnivore de première, c'était un Suisse. Les 3 petits, c'est des Berbères des Aurès, ils étaient moins branchés viande. Mon fils m'a amené sa copine de Vevey végane. Je savais pas ce que c'était la cuisine végane, on peut même pas employer des œufs et du miel. Et la première recette qu'elle m'a apprise, c'est des brownies véganes. Alors ça, c'est en 2 minutes que je vous l'explique. Vous prenez des dattes trop mûres, vous les écrasez en tout petits. Vous mettez dedans ce que vous voulez, des noix de pécan, des noix et tout ce que vous avez envie, des pistaches. Et vous faites une couche de ça avec une couche de chocolat noir de ménage. Une couche de ça, une couche de chocolat noir de ménage. Vous mettez 2 heures au frigo, vous coupez et vous mangez.
Et voilà, on a une première recette. Merci Christine.
Parfait, merci.
Mauro Capelli, vous avez dit à 20 ans, vous avez choisi la cuisine. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur pour choisir cette vocation ? Puisque alors, vous avez parlé de sacerdoce, on peut parler de vocation.
Oui, c'est sûr, c'est une vocation. Je dirais que c'est assez étrange la vie quand on prend des décisions. J'ai eu quelques ruptures, on peut dire, ou en tout cas des décisions. Des fois, les ruptures, ça veut dire qu'on les déciderait pas. Là, j'ai décidé. Et j'ai eu 3 grands moments dans ma vie où j'ai eu des moments où j'ai décidé des choses importantes pour moi. Ça, c'en était un. C'est-à-dire, je quittais un monde qui était plutôt un monde universitaire, où j'étais passionné d'histoire, et puis un peu de tout ce qui était français, tout ce qui était la langue. Et puis, je ne voyais pas... j'étais un peu coincé pour en faire un métier. Les études me semblaient barbantes, un peu inintéressantes, et je voulais être dans le réel. Et c'était difficile de prendre cette décision, parce que je quittais un monde que j'aimais, et puis j'allais vers quelque chose qui était inconnu. Et ça a correspondu aussi, je dirais, à une rupture où j'ai quitté, je vivais dans le Jura, j'ai quitté le Jura, je suis parti dans les, sur les, la côte lémanique. Et tout s'est fait en même temps, comme ça. C'était un peu une forme de, je sais pas, prise de conscience ou de démarrage. Et puis après, j'ai jamais, je referai la même chose, je pense. J'ai jamais regretté. Et puis, c'est une vie tellement riche. Et puis, j'aimais vraiment ça, quoi. Donc, quand on aime quelque chose, qu'on est passionné, je suis toujours passionné. Aujourd'hui, je fais moins de cuisine parce que j'ai un neveu à qui je transmets mon savoir-faire et mon entreprise. Donc, je suis plutôt dans l'organisation, mais je suis au restaurant, en contact avec les clients. Et je pense que j'ai fait le tour. Je sais que le premier jour où je suis arrivé dans la cuisine, j'ai fait la plonge pendant une semaine. Donc, j'ai tout fait.
C'est un passage obligé, la plonge.
C'est un passage obligé, la plonge dans une cuisine. Il faut tout savoir faire.
Ouais. Mais il faut quand même être... passionné, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez connu des cuisines à 50 degrés. Y a quand même un apprentissage qui n'est pas des plus faciles comme cuisinier.
Disons, moi je forme beaucoup de jeunes, je forme beaucoup d'apprentis en cuisine. Et c'est... Bon, moi quand je suis arrivé dans ce monde, je voulais faire ça. Donc j'avais 20 ans, donc pour moi c'était clair. Donc je ne remettais rien en question, j'acceptais toutes les situations. Aujourd'hui, quand j'ai des jeunes avec moi, bah, il faut leur expliquer peut-être déjà le sens du réel, quoi. Puis quand vous êtes dans la cuisine, vous êtes pile dans le réel, quoi. C'est-à-dire il y a des choses à faire, il y a de l'organisation à respecter. Puis après, il y a les clients qui sont là avec leurs demandes. L'organisation a quand même beaucoup évolué aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, les cuisiniers compétents et talentueux sont très organisés. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un de forcément très, très organisé au départ. La cuisine m'a organisé dans la tête, mais moi, je n'étais pas trop, trop organisé. Je suis plus spontané. Et la seule chose que j'aime, vraiment la vraie chose que j'ai aimée dans la cuisine et que j'aime toujours, c'est la transformation par la chaleur ou la transformation d'un produit. Donc, j'ai plus une approche plutôt tranquille, plutôt d'observation. J'observe le produit, je le comprends, j'essaie de le comprendre de l'intérieur, comme ferait peut-être, pour donner un exemple, un cuisinier japonais. Il doit comprendre la matière qu'il a en face de lui. Donc, je suis très sensible à la qualité des matières, à la qualité des produits. Et à partir de là, le cuisinier, il ne fait qu'accompagner le produit dans un procédé qui est un procédé de transformation par la coupe, par la cuisson. On transporte ce produit, on l'amène dans une assiette pour composer quelque chose et dire quelque chose. Pour moi, c'est une forme de création et puis de répétition aussi de quelque chose, avec un objectif esthétique, du goût, etc. Mais avant, tous nos invités ici ont parlé des plats de leur grand-mère et autres. On voit qu'au départ, il y a un acte d'amour, il y a quelque chose qui est lié très profondément. Et la cuisine, malheureusement, doit toujours être expérimentée, exercée longuement pour arriver à une qualité. On avait la ratatouille de la grand-maman, les lasagnes, le ragoût. C'est toutes des choses qui sont cuisinées, qui nous imprègnent. Et peut-être dans le temps, une grand-maman, elle faisait peut-être 10 produits ou 5 ou 4 plats, mais elle les savait faire parfaitement parce qu'elle les avait fait des centaines de fois, quoi. Donc elle savait les faire, quoi.
Oui, puis ce n'est pas de la cuisine rapide.
Ah, le rapide aujourd'hui, c'est compliqué.
Quand je disais un apprentissage difficile, je pensais aussi aux connaissances que vous devez avoir, parce que vous connaissez effectivement, comme vous venez de dire, le produit, vous apprenez le produit, mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste qui accompagne le produit, les épices, enfin tout ce qui fait qu'un plat peut être présenté. Et c'est une connaissance, j'ai l'impression, encyclopédique, non ?
Je fais encore partie de ces anciens cuisiniers qui ont une connaissance encyclopédique, quoi. Toute ma jeune carrière, je faisais que acheter des livres, mais qui étaient très larges. Ça allait de la diététique, sur des livres scientifiques, sur la composition des produits. Puis après, tous les livres de cuisine qui étaient édités à l'époque, je les ai eus dans ma bibliothèque, je les consultais régulièrement. J'ai aussi eu, j'ai essayé de commencer une collection de livres anciens de cuisine. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que c'était trop, ça correspondait plus à ma recherche. Mais c'est vrai que le métier de cuisinier est un métier, on va dire, comme un ingénieur. C'est-à-dire, il faut imaginer les choses, il faut les comprendre et puis après les réaliser.
Cristiano.
Moi, j'avais une petite question à propos des plats que vous cuisinez, un peu comme vous parlez des aliments et tout. Quel est le plat le plus compliqué que vous ayez fait de votre carrière à réaliser?
Alors, il y a plusieurs bonnes questions. Il y a plusieurs aspects de la complication. La complication peut être un plat compliqué parce qu'il y a une technique qui est difficile. Et puis, elle doit être réalisée dans un temps précis. Donc, ça, c'est une complication. Et puis après, l'autre complication, c'est la superposition de plusieurs types de recettes, spécialement en pâtisserie. Aujourd'hui, la pâtisserie de restauration haut de gamme, parce qu'on parle de gastronomie, elle est très complexe. Il faut connaître les gelées, il faut connaître toutes sortes de produits qui sont des liants, qui vont être la couleur. Il faut que ça tienne sur l'assiette, il faut que ça soit précis, coupé très précisément. Alors la complication, c'est ça, c'est tout ça. Mais c'est pas, la complication ne veut pas dire que ça soit bon, parce qu'il faut la maîtriser.
Il y avait une question chez Christine. Oui.
Il est plutôt une espèce de petit témoignage. Moi, je suis née allergique à toutes les matières grasses du lait. Elle est allée voir un médecin à Berne, ma mère. On m'a fait une prise de sang sur la tête. Elle a dit, il faut en faire un autre, il ne vivra pas. Parce que les bébés ne peuvent rien digérer d'autre que du lait jusqu'à l'âge de 4 mois. Ma mère est rentrée à la maison, elle a stérilisé une marmite à pression. Elle a mis 3 grains de sel marin, 1 litre d'eau, une pomme de terre, un légume. Elle m'a nourri 6 mois à ça. Quand j'ai repris mon poids normal, elle a été chez le médecin. Il lui a répondu, c'est pas le même bébé, votre bébé il est mort. Et ça, j'étais végane à la naissance. Et toute la cuisine que j'ai apprise, c'était par ma maman. Parce que mon mec cuisinier qui faisait des pizzas à l'olio à Ouchy, quand on rentrait de boîte, il me faisait des spaghettis au tube de tomates. Et maintenant, il est directeur de l'école des Roches à Amman, en Jordanie. Mais c'est un bon cuisinier avec un stylo dans la poche, mais pas devant une cuisinière.
C'est bien que vous parliez des intolérances, Christine, parce que c'était une question que j'avais envie de vous poser aussi, Marvo Capelli. Comment est-ce qu'on fait quand on est un grand chef pour permettre à toutes celles et ceux qui ont des intolérances alimentaires de pouvoir goûter à la cuisine que vous proposez?
Alors, au revoir, madame. Les intolérances, elles sont assez connues aujourd'hui. Les plus importantes, c'est le gluten et puis les produits au lactose. Ça, c'est les plus communes. Après, aujourd'hui, le client est très pointu. S'il est malade avec certains produits, il nous le dit en entrée. Donc, pour nous, ce n'est pas trop, trop compliqué, disons. Parce qu'on travaille beaucoup de produits frais, on travaille beaucoup de produits cuisinés à la minute. Donc, on peut modifier toujours une recette, quoi. Ou alléger quelque chose.
Donc vous êtes attentif.
On est obligé, oui.
Pavillon Nomade donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas forcément tous les jeudis en direct de 15h30 à 16h30 et quand vous le voulez aussi à la réécoute sur le site www.pavillonnomade.ch. Et on écoute aussi de la musique durant cette heure de rencontre et j'ai concocté une petite bande son pour vous, Marvo Capelli. Voici la première chanson. En fait, non, c'est une recette que nous offre Michel Legrand.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four.
une chanson incontournable lorsque l'on reçoit un grand chef. Cette recette pour un cake d'amour, extraite du film Peau d'âne de Jacques Demy, une mélodie composée par Michel Legrand, bien évidemment, et chantée, contrairement à ce que l'on pense, non pas par Catherine Deneuve, merveilleuse dans le rôle-titre, mais par Anne Germain, délicieuse voix que l'on retrouve dans de très nombreux films et dessins animés. La chanson se termine alors que la pâte se repose sur un souhait. Quels sont vos souhaits, Mauro Capelli, lorsque vous concoctez un menu ?
Alors, bon, c'est dans ma tête, dans la tête aussi de mon chef, quand on fait des menus, on a déjà tout un répertoire. Donc, ça dépend beaucoup de la saison déjà. Donc, on va s'adapter à la saison, aux produits qu'on a trouvés, aux légumes qu'on a trouvés. Et puis après, aujourd'hui, on fait une cuisine beaucoup moins complexe. C'est-à-dire, on va dans la simplicité, mais faire de la simplicité aujourd'hui, c'est complexe. Alors, le souhait, c'est que ça plaise, mais c'est surtout que de ne pas dénaturer le produit. C'est-à-dire, j'ai un produit de base, ça peut être un légume, la base, ça peut être un poisson, une asperge, si c'est la saison des asperges. On va commencer bientôt les artichauts. Mais comment je vais pouvoir amener cet artichaut, qui sera bientôt là sur la carte, comment je peux pouvoir l'amener pour que le client ait le goût de l'artichaut, que ça ne soit pas dénaturé, puis qu'il y ait un... C'est sûr qu'on fait aussi un peu de la gastronomie. On fait de la gastronomie, donc il y a une forme d'esthétique aussi. Mais il y a une esthétique du goût. Puis après, c'est l'équilibre.
Et c'est intéressant parce que vous venez de dire respecter les saisons pour les légumes, pour les fruits.
Alors oui, nous, on a un jardin à la montagne. Je crois qu'ici, vous avez aussi un jardin, un grand jardin. J'ai vu vos produits qui étaient faits avec les diverses extractions et puis les lactos, tout ça. Nous, on fait un peu là-dessus, on s'inspire un peu là-dessus. Bon, on le fait, ça apparaît, je dirais, tout légèrement dans nos recettes, dans nos productions de plats, mais quand même, c'est présent.
Oui, Nathalie.
Comme vous parliez des artichauts,
ouais.
Moi, mon souvenir, justement, c'est pas manger le cœur, c'est tremper des feuilles dans une petite vinaigrette.
Voilà.
Voilà. Après, bon, ça fait plus, comme disait Coluche.
Ouais, j'aimais beaucoup Coluche, oui.
L'expression, il y en a plus...
Oui. Je me rappelle plus, mais je sais que c'était assez... Ouais, c'était du Coluche, quoi.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y en a plus dans l'assiette que dans le ventre, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que le cœur, c'était pas trop mon truc.
D'accord.
Il y en a peu qui connaissent ça.
C'est juste. Bon, c'est vrai que souvent, quand on cuit les artichauts entiers dans l'eau, bien dans l'eau vinaigrée, comme ça se faisait... l'artichaut était très très cuit, donc le cœur, souvent il est un peu trop cuit, il est un peu mou, voilà, mais aujourd'hui les artichauts, ben, on les prend plutôt plus jeunes, petits, puis on enlève juste quelques feuilles autour, et puis on les cuit très peu, on essaie de les cuire peu pour avoir vraiment le goût végétal de l'artichaut. Alors nous, on prend des artichauts en Sardaigne, qui sont les IGP, qui sont des artichauts très, très goûtus, comme ça. C'est le spinose, c'est un artichaut épineux qui a des grosses épines, qu'on trouve un peu en Orient. Non, il n'est pas rouge, celui-là, il est un peu plus foncé, il est un peu violet.
Attendez Christine, il faut juste prendre le micro si ouais. on voulait qu'on vous entende. Voilà. Mais attendez un petit instant, on termine juste avec les artichauts.
Alors, c'est-à-dire que dans la gastronomie, dans plat traditionnel, on s'inspire du goût, mais on essaye toujours de le transformer déjà pour que le client ait moins de travail, parce que sinon, s'il passe son temps à sucer les feuilles, moi j'adore faire ça aussi l'été. Mais voilà, quoi, la gastronomie, c'est quand même un exercice différent que la cuisine qu'on fait à la maison. Voilà, il y a quand même une différence.
Christine.
Oui, la famille m'a appris une recette, c'est des petits artichauts rouges qui cuisent longtemps dans l'huile de palme avec du poulet. Oh. Et puis en fait, tout se mange après les feuilles et tout, tout devient très très mou.
Ouais.
Et on mange la totalité de l'artichaut avec. Et c'est délicieux.
Et ça, c'était votre deuxième recette alors ?
Non, ça c'est juste un petit aparté.
L'intervention.
La deuxième recette, c'est un secret de famille.
Alors, on va y venir. J'avais juste... Anouska, vous avez envie d'intervenir ? Non ? Dominique, éventuellement ? Non plus ? Ramzi, oui.
Alors, j'ai une question. Est-ce que durant votre carrière, pour créer de nouveaux plats, il vous est arrivé de vous inspirer de la cuisine d'autres cultures, comme l'Asie ou le Moyen-Orient ?
Très bonne question. C'est sûr que quand on est cuisinier et qu'on est curieux, automatiquement on tombe sur les cuisines des autres continents. On tombe dessus parce que déjà on va au restaurant, après on fait des voyages. Aujourd'hui c'est plus facile de faire des voyages qu'il y a longtemps. C'est vrai que mes premiers grands voyages, je les ai faits, j'avais presque 40 ans. Mais avant je ne faisais pas de grands voyages. Et alors je me suis inspiré. Alors moi ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est la cuisine japonaise parce que c'est une cuisine qui demande beaucoup de précision et qui est simple, mais qui demande une compréhension du produit. Et c'est celle qui m'a le plus impressionné. Après, c'est sûr que quand je rentrais de Thaïlande, je mettais des cacahuètes, j'utilisais de la coriandre, certains goûts que j'avais trouvés, j'essayais de les reproduire dans mes plats. Puis aujourd'hui, dans les restaurants, quand je mange, moi, j'arrive un peu à comprendre l'inspiration du chef, s'il a voyagé ou pas. J'arrive un petit peu à voir les choses, c'est un peu mon métier. Mais personnellement, pour moi, ce qui était important, c'était toujours respecter le produit. Donc je reviens quand même à mes bases, qui sont la cuisine italienne, où les produits sont cuisinés simplement. Et après, à partir de là, on peut toujours compliquer les choses. Voilà, si j'ai répondu.
Manon, vous avez éventuellement envie d'intervenir, non ? Nathalie ? Parce que je vous ai vu sourire à l'évocation du Japon.
Monsieur parlait justement.
Mais il faut prendre le micro.
Excusez-moi. Non, j'ai eu un petit sourire quand il a dit, monsieur, que vous avez aussi une culture de la Thaïlande. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup rappeler de souvenirs. Parce qu'en effet, moi aussi, j'ai travaillé dans une cuisine en Thaïlande.
Ah, voilà. Alors, vous en savez plus que moi, alors.
Du coup, et puis, je refais ça, beaucoup ça à la maison. Et puis, je fais ça aussi pour mon petit qui adore ça.
Ouais.
Toutes ses saveurs.
Ouais.
Tout simplement.
Vous avez évoqué ce magnifique jardin où on se trouve et surtout ces serres incroyables et ce potager tout aussi superbe. Vous êtes venu dernièrement magnifier les pauvres. Vous nous en dites quelques mots, parce que c'est intriguant, magnifier les pauvres.
Oui, j'ai trouvé très original l'expérience de faire cette année, de travailler, de faire cette université populaire, tous ces textes, toutes ces études, de faire venir tous ces invités, je dirais, sur le jardin, les choses simples. Moi, j'ai 68 ans et je trouve qu'aujourd'hui, la cuisine simple peut nous libérer de beaucoup de choses. Actuellement, on a une grande transformation dans la société. Malheureusement, on a de moins en moins de temps. Et ce temps nous fait aller vers des produits soit préparés, soit on a tendance un petit peu à trop simplifier les choses. Et on oublie notre santé, on oublie la communication, on oublie un peu beaucoup de choses qui peuvent se passer autour d'un plat. Donc le projet, quand on m'a dit de venir sur les simples, je n'ai pas donné de recettes vraiment, parce que moi, je n'ai plus trop de recettes à donner. Je peux donner des tours de main. Donc l'idée, c'était de venir avec des légumes crus et puis que tout le monde devait mettre un peu la main à la pâte. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'un légume racine, parce que c'était des légumes racines, donc ça peut être la pomme de terre, la betterave, ça peut être des navets, qu'est-ce qu'on avait aussi ? On avait des panais, on avait des patates douces. Puis à partir de là, on a dit, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? On disait, tout le monde avait une petite planche, un petit couteau. Puis j'ai dit, épluchez-les déjà. Puis j'essayais de voir, en disant qu'on pouvait éplucher les choses, pas les éplucher, qu'on pouvait les couper simplement, qu'on pouvait les couper plus finement, pour après arriver à un résultat de cuisson qui soit faisable, simple, mais qu'on puisse refaire tous les jours. Et j'ai surtout montré la variété qu'on pouvait faire dans les accompagnements. Déjà, d'accompagner toujours un légume racine avec un petit peu d'oignon d'ail de base, mais après, des cuissons à l'eau, courtes, plutôt vapeur, eau. Et puis, terminer avec un légume vert et un produit qui soit une bonne huile, un peu de soya, un peu de... C'est un peu vraiment une introduction pour voir comment on peut faire. Parce que moi, j'en fais une cuisine de base quand je suis chez moi, que je suis le week-end. Des fois, je n'ai pas envie de manger des choses compliquées. Je me fais des légumes de jardin. Je les fais simplement en prenant ce qu'il y a. Voilà. Là, un petit peu le fil conducteur de ce moment-là passé.
Oui, parce qu'il faut préciser que les pauvres, c'est ce qu'on appelle les légumes anciens. Hein, vous l'avez dit, les rutabaga, topinambour, en partie.
Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a perdu des gestes simples que faisaient les grand-mères. Elles avaient un jardin où elles allaient au marché. Puis à partir de 3-4 choses, elles faisaient un plat cuisiné. Avant, le monsieur qui était là avant a parlé de la ratatouille de sa grand-maman. C'est vous qui en avez parlé.
Non, c'était Cristiano.
C'était
oui.
Cristiano. Ça, c'était quelque chose de simple à faire. La ratatouille, s'il n'y a pas d'aubergine, on met plus de courgettes. S'il n'y a pas de courgette, on met ça. Mais elle avait un savoir-faire, elle retombait sur ses pattes. Moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que comment on cuisine plus, ou très peu, de choses un peu faites simplement, mais on ne sait plus comment faire. Puis quand on va faire nos achats, ben on ne sait pas quoi acheter, on est un peu perdu, on dit qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais stocker ça au frigo.
Oui, et puis je vois Anouchka faire un signe, c'est aussi une question d'argent, vous voulez poser la question ? Christine, ouais. Je viens vers vous juste après. Vous passez le micro à Anouchka juste pour qu'elle puisse poser la question. Je viens vers vous, Anouchka.
Ben, rien, simplement, moi, ce qui m'interpelle aussi principalement, c'est que les gens ont de moins en moins d'argent et qu'on a peut-être l'impression que de devoir acheter tel aliment, tel aliment, tel aliment, tel aliment, tel aliment pour une recette... les gens ont peut-être aussi l'impression que acheter un produit tout fait revient moins cher, bon, et plus rapide aussi, bien entendu. Mais je pense qu'il y a aussi une question financière, à mon avis, dans tout ça, parce que la vie est chère et on a, comme tout le monde le dit tout le temps, pas les salaires qui augmentent de la même manière. Voilà,
c'est une
tout
bonne
simplement.
Remarque. Merci, Alushka. Qu'est-ce que vous en pensez, Maro?
Ben, la problématique, moi je vois un peu plus ça, un peu le plus haut, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés qui deviennent de plus en plus complexes, les villes deviennent de plus en plus grandes, et on perd, quand on est dans la ville, on perd beaucoup d'autonomie, on est dépendant de ce qu'on trouve autour de nous. Il n'y a plus possibilité aujourd'hui de se loger bon marché, les loyers sont hors de prix, donc nous ponctionnent déjà une grande partie du salaire. Puis à partir de là, c'est quand on est dans la ville, si on perd un petit peu ses racines, ses habitudes, ben on est coincé après. Puis après, on ne sait plus comment faire, quoi. Et c'est vrai qu'on a encore la chance ici. Bon, j'observe la ville, des jardins, j'en vois plus. Plus personne n'a le temps de cultiver un jardin, alors que ça serait la première démarche à faire. Si on est dans une ville où il y a une possibilité d'avoir un jardin, d'avoir un bout de jardin, ça serait la première démarche à faire pour se libérer de quelque chose et de l'agroalimentaire, quoi. Après, il y a tout un système derrière qui est là pour que les choses se passent au mieux. Si je peux dire.
Alors, Christine.
Financier, je vais dire, moi j'avais 4 enfants, je vivais sans un sou des papas, donc 2 carnivores et 2 véganes. Il fallait faire à manger pour tout le monde. Pour les carnivores, j'allais dans les boucheries halal parce que c'était moitié prix l'agneau. Et puis pour les véganes, ils faisaient la sortie de tous les marchés tous les soirs, parce que c'est 5 marchés à Genève par semaine, et ils ramassaient tous les fruits et légumes qui n'étaient pas vendables le lendemain. J'avais acheté une grande centrifugeuse de Solis qui me faisait d'un côté la pulpe, de l'autre côté les jus. Donc on buvait les jus sur place. Et après, avec la pulpe de légumes, on faisait des soupes. Et avec la pulpe de fruits, on faisait des confitures qu'on vendait en magasin. Donc on faisait encore de l'argent sans avoir payé quoi que ce soit. Et pour les carnivores, c'était la viande. Ça veut dire les petites épaules d'agneau au four. Ouais, mais quand tu élèves 4 enfants sans argent des papas...
J'ai 4 enfants également.
Et non, pas d'argent du papa non plus.
Non.
Eh ben, je te veux donner 2-3 trucs, parce que moi, j'aurais toujours acheté des Nike et des Louis avec ma guitare.
C'est des solutions, merci. Christine, Nathalie,
je reviens vers vous.
Ouais. Nathalie.
C'est un petit détail, je voudrais dire, c'est qu'à présent, malheureusement, les mamans ne prennent plus le temps de cuisiner. Ils n'ont plus le temps. Alors, du coup, ils prennent du surgelé, c'est du rapide, c'est de la malbouffe, on va dire aussi. Mais la vie fait que, avec les horaires de travail, quand on rentre à 19h, après il y a les devoirs, il y a beaucoup de choses, que les mamans baissent les bras et les enfants sont mal nourris.
C'est quelque chose qui est interpellant, Maro Capelli.
Disons, l'organisation du temps, l'épuisement qu'on a face aux journées qui sont très longues, aux toutes les charges qu'on a, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un des grands problèmes qu'on a actuellement dans notre société. Bon, ce que a dit Madame tout à l'heure, de cuisiner, quand on est organisé, si on arrive à s'organiser, puis qu'on a peut-être aussi un savoir-faire ou une culture qui nous pousse à le faire, il y a des possibilités, mais on doit consacrer tout son temps à ça. Puis aujourd'hui, on ne veut plus consacrer trop de temps à la cuisine, je pense.
Moi, j'ai une petite question, Maro Capelli. Comment fait un grand chef comme vous pour ne pas prendre de poids?
Alors, j'ai la chance d'avoir une très bonne santé. puis j'ai aussi la chance d'être très attentif parce que moi j'ai un corps qui est plutôt faible, qui est plutôt, j'avais beaucoup de problèmes liés aux intestins parce que j'avais des intolérances, des allergies, je mangeais pas ci, pas ça. Donc j'ai toujours été attentif un petit peu à ma corpulence. Après j'ai été plus gros, hein, j'ai été plus fort. Puis à un moment donné, on prend conscience, puis on perd un peu de poids ici, on change un peu ses habitudes. Mais c'est sûr que dans mon alimentation quotidienne, je mange toujours beaucoup de légumes, beaucoup de choses crues. En plus, j'ai la chance d'avoir mon jardin. Puis nous, dans la restauration, quand on est restaurateur, on est beaucoup en contact avec l'alcool, qui est aussi un des problèmes. Donc, j'ai aussi eu ce problème-là. Donc, j'ai appris à le gérer, à boire moins, à faire moins la fête. Après, il y a les années, il y a l'âge. Puis c'est tout un ensemble de choses. C'est un équilibre, la vie. Hein. C'est, ouais, c'est pour tout le monde.
Hein. Et c'est très tentant.
Ah ben oui. Ben
on
oui,
est d'accord tentant, entre
c'est sûr.
Les plats c'est sûr. Et les boissons.
Après, c'est j'ai tentant. Eu la chance, c'est-à-dire que je n'aime pas le sucre. Je n'ai jamais mangé de sucre de ma vie, quasiment pas. Donc ça m'aide aussi. C'est-à-dire que dès que moi je vois une alimentation qui est sucrée, je ne vais pas y aller. Je refuse d'aller ou j'en mange très peu. Et puis, j'ai, par ma constitution qui est un peu faible, on va dire, je n'ai jamais mangé de produits transformés et achetés. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé mes produits. Donc, je ne vais pas manger des choses qui sont transformées ou je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ben ça, c'est un peu une rigueur, quoi. C'est un peu le hasard de la vie au départ. Mais après, c'est une rigueur. Puis là, on arrive à passer la vie assez bien, je pense.
Il y a beaucoup de films autour de la cuisine et on se régale souvent en les regardant. Il y en a un qui fait l'unanimité, je ne crois pas me tromper en disant cela, c'est Le Festin de Babette. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement. Ce film est inspiré d'une nouvelle de Karen Blixen et raconte l'histoire d'une Française exilée dans un petit village au Danemark. Je ne vais pas vous raconter l'histoire si vous ne l'avez pas encore vu, mais sachez que l'intrigue de ce film est un repas extraordinaire, avec des mets incroyables que l'on retrouve dans une chanson de Juliette.
Et autres associés, vos noms seront gravés au dossier de vos chaises. Dans un silence inquiet, vous vous compterez 13. Cierges et candélabres jetteront leur feu sombre dans la salle à manger tendue d'étoffe et d'ombre. Rien qui ne sera noir, noir d'ivoire ou d'asphalte, de liège, d'alizarine, de charbon, de basalte. L'invitation dira: minuit, on vous attend, venez vêtus de noir comme aux enterrements. Si vous portez des fleurs, que ce soit des violettes, soyez mes invités au festin de Juliette. Alors vous mangerez à votre fantaisie des pains de sarrasin, des olives de Turquie, des blinis de Midoff, des liqueurs requiem, où le caviar repose sur son linceul de crème. Vous vous régalerez de trompettes des morts, de morilles plus bistres que la tête d'un mort, de sèches dans leur encre, de truffes en sarcophage, de gibier dans leur sauce aux couleurs de cirage. On servira des vins âpres de vieilles vignes, du chocolat amer, des mûres et des guignes, noirs dans les verres noirs et noirs dans les assiettes. C'est ainsi que sera le festin de Juliette. Lorsqu'après le café, les liqueurs, les londresses, vous vous demanderez: mais où est notre hôtesse? Quand vous m'appellerez Juliette, amie divine, venez qu'on vous bénisse, sortez de vos cuisines. Comprendrez-vous enfin la noire mise en scène, apôtre malgré vous d'une lugubre scène. Vous m'avez tant aimé, il aurait été bête de ne pas vous convier au festin de Juliette. À l'éternel repos, dans le dernier repas, ma vie sera dissoute dans chacun de ses plats. Mon sang assombrira le ténébreux civet, épicé de remords et poivré de regrets. Chair et os sur la braise, le cœur en cassolette, se donner corps et âme à vos coups de fourchette. Oui, pour une gourmande, c'est une fin parfaite de sceller son destin au festin de Juliette. Oui, pour une gourmande, c'est une fin parfaite de sceller son destin au festin.
Voilà, Juliette qui s'éloigne. On retrouve dans cette chanson diabolique quelques plats signatures, comme on a coutume de dire actuellement, des plats du film Le Festin de Babette, que je vous recommande de voir ou de revoir. Mauro Capelli, est-ce que vous avez un plat signature?
Alors moi, j'en ai eu. Aujourd'hui, le restaurant, je le transmets à mon neveu. Donc, c'est ses plats signatures à lui. Et un plat qui revient toute l'année, c'est un plat à base de raviolis. Ravioli italien, travaillé avec une pâte très ferme, très croquante, qu'on va farcir selon les périodes. Là, maintenant, on le farcit avec une farce de cerf et de chamois, avec des légumes. Et puis, on met de la truffe grise du Chablais. On a Jean-Pierre Schmitt avec son petit chien qui va nous les chercher. Bon, là, avec la neige, c'est fini. La saison, elle s'est arrêtée brusquement. Voilà un des plats qu'on fait régulièrement toute l'année. Et puis après, sur le mois d'avril, on fait tout un mois un repas sur l'asperge. De l'entrée jusqu'au dessert. Et ça, c'est un peu... on a des plats aussi assez phares qui sont là-dedans. Et un plat qui ressort toujours, c'est la tempura d'asperges. Donc, c'est une asperge qui est cuite à la minute dans une légère friture japonaise. Voilà.
Alors, j'ai imprimé le menu d'hiver du restaurant du théâtre. Il tient sur 3 pages. Je ne vais pas tout dire parce que y a vraiment de quoi faire saliver tout le monde. Effectivement, vous avez les raviolis et vous les accompagnez de cubes de topinambour. De nouveau, les pauvres.
On retrouve les pauvres. C'est sûr que ça marque la saison. Nous avons ici à l'Eau Bleue, on a un monsieur qui a 92 ans, qui nous amène tous les mercredis 3 kilos de topinambour de son jardin. Et puis moi, j'en ai un petit peu à la maison, mais je les garde pour moi. Donc, on essaye toujours d'avoir des produits hyper frais du coin. Après, c'est complexe, un restaurant.
Ça, on l'imagine bien. Vous avez une question ou une recette, Christine?
J'ai un témoignage et une recette.
Alors, on va faire court parce qu'il y a Ramzi qui a aussi quelques questions.
J'ai beaucoup voyagé et je donnais des cours de français. La condition, c'était un échange, ce n'était pas de l'argent. C'est qu'elles viennent avec des ingrédients d'un produit de leur pays. Et qu'on fasse la cuisine en apprenant le français. Donc j'ai appris de la cuisine japonaise, de la cuisine coréenne, de la cuisine sud-américaine. C'était génial, ça m'a appris vraiment beaucoup de saveurs. Et quand j'étais déprimée, mon psy me disait « se ressort les épices de ta cuisine ». Et ça marchait. La deuxième, c'est un petit dessert, un petit entrée que je vous propose pour les fêtes de Noël. Vous faites un tartare de saumon au vinaigre de framboise. Vous mettez dans une tasse une feuille de saumon fumé. Vous tassez avec le tartare de saumon, vous refermez la ballotine, vous tournez à l'envers et c'est posé sur une assiette et c'est prêt. Et c'est délicieux.
Tout simple et délicieux. Ramzi. Merci, Christine.
Alors
merci.
Moi qui aime beaucoup les plats de bœuf mijoté, j'aurais aimé savoir quelle est la pièce de bœuf qui est la mieux pour les plats mijotés.
C'est Alors, une grande question.
Belle question. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si vous voulez travailler avec un mijotage qui soit pas trop long, la palette de bœuf, c'est une pièce qui est dans l'épaule. Elle est assez tendre, elle se cuit assez vite. Et puis, elle a un nerf central qui est très gélatineux. Quand il est cuit, c'est excellent. Après, si vous voulez faire un plat avec où vous avez plus de temps, je pense toujours à des morceaux qui sont moins chers. Les jarrets de bœuf, plus personne ne les veut. Ça se vend aujourd'hui dans des grandes surfaces, mais il faut aller dans les surfaces pour les restaurateurs. Vous avez des jarrets de bœuf, vous pouvez l'avoir par 3, 4, 5 kilos. Puis là, je trouve que le jarret, c'est extraordinaire quand c'est mijoté, parce que c'est beaucoup plus ferme. La palette a tendance à se défaire sur un long mijotage, tandis que le jarret de bœuf reste assez ferme. Et j'adore cette pièce-là. Et c'est vraiment dans les moins chers. Si j'avais plus beaucoup de possibilités, si je voulais manger du bœuf, j'irais sur ces deux morceaux-là. Parce que la palette, on peut aussi la griller. Si vous la démontez, vous pouvez la griller saignante.
Juste le jarret de bœuf, c'est bien la pièce avec l'os au milieu.
Avec l'os au milieu, mais vous pouvez, quand on va chercher dans les grandes surfaces pour restaurateurs, vous le trouvez déjà désossé. Donc vous avez vraiment le jarret. Alors c'est une pièce qui a plusieurs muscles. Alors il y en a qui sont très tendres. Si vous les connaissez, vous pouvez les démonter. Il y en a un au milieu qui est très tendre, vous pouvez faire en tartare ou en steak, mais ça demande un petit peu de travail. Sinon, vous coupez à travers, vous faites des gros morceaux. Et puis, un des secrets du mijotage, c'est qu'il ne faut pas retirer la viande. Il faut commencer la viande tout doucement, presque à froid, tranquillement, pour qu'elle rende son eau avec un peu de sel. Et vous allez caraméliser ce taux. Après, on met des légumes, on caramélise. Et après, on peut mettre un peu de bouillon, de vin blanc, de vin rouge, selon ce que vous voulez faire dans la recette. Et ça prend une bonne heure pour faire ce travail-là. Puis, une fois que vous l'avez fait, que tout est caramélisé, vous mouillez à l'eau, vous mettez vos épices, vous laissez un peu mijoter, puis vous réchauffez toujours le lendemain. Et là, vous avez un mijotage qui est très, quelque chose de mijoté, qui est très simple à faire, qui demande un peu de temps, mais qui est très savoureux. Vous créez votre sauce en même temps que vous faites le mijoté. Parce que acheter des sauces toutes prêtes et autres, ça, c'est une catastrophe.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Mauro Capelli, on entend souvent que le goût et le palais, forcément, peuvent s'éduquer. Est-ce que vous confirmez ?
Ben, disons, la première éducation, c'est ce que nous ont transmis nos parents ou nos grands-parents, la culture dans laquelle on est, ça c'est la première éducation. C'est évident que si on prend une personne qu'elle a jamais été dans des choses, si elle n'a pas eu une éducation là-dessus, ben, c'est compliqué après. Mais on peut toujours s'éduquer dans la vie, on peut toujours continuer, reprendre. Mais c'est sûr que cette idée du goût, ça fait partie de la culture. C'est une culture très importante et chaque pays, continent s'accroche à ses goûts. C'est une rude bataille actuellement.
C'est vrai. Oui, Christine.
Oui, j'avais juste un petit hommage à faire à ma maman qui est décédée il y a 2 ans. Elle a tenu le Plaza à Crans-Montana pendant 30 ans. C'est la première qui faisait le plat du skieur. Dans les autres restaurants, c'était entrée, suite, machin, avec des menus à pas de prix. Les enfants de Beko, les enfants d'Aznavour, les enfants de venaient manger quand ils allaient faire du ski au chalet, venaient manger chez maman. Elles ont lancé l'assiette du skieur à 10 francs l'assiette à l'époque. Les commerçants de la station se sont moqués d'elle. Elle faisait 140 couverts sur une cuisinière de 4 plaques.
Waouh!
Bravo!
Je lui tire mon chapeau parce qu'elle m'a appris la cuisine.
En
plus
effet.
Que mon ex-mari qui était chef cuisinier.
En effet. Merci Christine pour ce joli souvenir. On arrive dans une période festive. Est-ce que votre restaurant est ouvert à Noël et à Nouvel An, Mauro Capelli?
Alors Noël, on est fermé parce que j'ai un grand respect pour cette fête que mes employés passent une semaine à Noël en famille. Par contre, on est ouvert sur Nouvel An, la première, ça, avec Nouvel An.
Il y avait une question, Anouchka, ou une...
Question.
Question.
Oui, une question. Alors, là, on parlait d'éducation culinaire. Je pense que j'essaye de varier un maximum les recettes et tout ça. Simplement, j'ai un enfant de 10 ans qui n'aime pas les pommes de terre. Et j'essaye de le tromper à chaque fois. Mais donnez-moi une ou deux idées pour le tromper avec les pommes de terre, parce qu'à chaque fois... Il arrive à retrouver le goût de la pomme de terre et vraiment être dégoûté quoi, et ne pas manger du tout. Donc, est-ce qu'il y a des secrets où on pourrait cacher ? Je peux cacher ?
Attendez, Christine, on va d'abord laisser répondre Mauro Capelli et puis après
d'accord.
Christine. D'accord.
Alors, quand un enfant est fixé sur un... J'ai aussi eu des enfants petits. Quand il est fixé sur un produit puis qu'il ne le veut pas, c'est très difficile à le tromper. Donc, détrompez-vous, ça ne sert à rien. Moi, je vous dirais carrément. Par contre, d'avoir peut-être près quelque chose qu'il aime. Et puis, ce qui est important, ce n'est peut-être pas la pomme de terre, c'est s'il mange la garniture ou qu'est-ce qu'on arrive à lui faire manger de l'assiette que vous avez préparée quoi. Ouais.
Alors moi, ce que je faisais à mes enfants, parce qu'ils ne mangeaient pas beaucoup de légumes, ils n'aimaient pas les légumes à la vapeur, ils n'aimaient pas les légumes braisés, j'ai inventé la purée magique. Ah. La purée magique, c'était 3 à 4 sortes de légumes avec des pommes de terre, un œuf, de la crème chaude fraîche et tout au mixeur. Et ils appelaient ça la purée magique et ils mangeaient des tonnes de purée magique. Alors ils n'ont jamais mangé un des légumes qu'il y avait dans le plat.
Qu'il y avait dans le plat, ouais.
Mais bah alors, voilà. Votre enfant, Anouchka, les frites non plus.
Alors les frites non plus, sauf celles du McDo. Pas de bol. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas les reproduire, donc voilà.
Oui,
dans les recettes, je me rappelle, j'étais en voyage, puis un journaliste de la Radio Romande m'appelle pour demander, je rentrais. Bon, c'était un peu compliqué, puis j'ai dit, je vous fais une recette italienne. Et j'avais créé tout un plat qui était le plat magique aussi. C'était comment se faire à manger en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'avec ce qui restait, donc c'était, on ouvrait le frigo, on prenait les légumes qu'il y avait. Donc c'est sûr que chez moi, il y a toujours des légumes. On prend une bonne pâte, donc des bonnes pâtes en général, on les achète. Et en même temps qu'on cuisait la pâte, on cuisait les légumes selon leur dureté, en même temps que la pâte. Donc la pâte prenait du goût, mais il fallait quasiment qu'il y ait presque moitié-moitié. Donc s'il y avait 60 grammes de pâte, il fallait qu'il y ait en tout cas 120 grammes de légumes par personne. Puis à la fin, on avait un plat qui était avec des légumes, des pâtes. Et puis après, c'est plus facile à faire. On mettait 2-3 lamelles de parmesan ou ce qu'on avait, une huile d'olive. Et la tomate, si on mettait de la tomate, elle pouvait être crue. On la coupait en morceaux, on la posait dessus. Et c'était un plat qui demandait 20 minutes de préparation, de cuisson, préparation. Tout se faisait en même temps. Puis on peut dire qu'on a presque un repas. On avait un repas complet. C'était un peu quelque chose. Alors j'ai fait des plats comme ça, un petit peu gigogne, où on met les plats dans les autres pour essayer de simplifier la vie, puis d'expliquer à des personnes qui sont bloquées, qui ne savent plus comment faire.
Il y avait une question de Cristiano.
Oui, effectivement, pour vous, Anouchka. Est-ce que vous avez déjà essayé la soupe ?
Oui.
C'est un petit oui désespéré.
Oui, c'est un oui désespéré, exactement. C'est que j'ai essayé tellement de... J'ai l'impression d'avoir essayé tellement de choses différentes. Toutes les sortes de purées, hein, où ils ne verraient pas que, en me disant avec une autre couleur, ça va marcher. Non, ça ne marche pas, ça ne convient pas. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il n'interprète que ça dans l'assiette. Et puis après, j'ai l'impression que le reste, même le reste, au bout d'un moment, s'écarte comme si c'était mélangé. Donc, j'ai essayé, mais malheureusement pas. Ses frères et sœurs, pas de problème, mais lui, c'est une catastrophe.
Vous avez envie de réagir, Mauro ?
Disons, on a parlé, la première chose qu'on a dit aujourd'hui, on a parlé de la transmission de la cuisine, des grands-mamans, des mamans. C'est vrai que dans le repas, quand on partage un repas, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui traversent la table. Et il y a des périodes, d'un enfant qui serait dans un développement, une période d'éducation, il veut marquer quelque chose, puis il va le marquer là où il voit que sa maman a fait du travail pour lui dire quelque chose. Donc il faut supporter un peu, je sais pas comment dire, et puis essayer de, et ça va venir quoi. Mais c'est vrai que il se passe beaucoup de choses autour d'une table.
Absolument, il faut donner du temps au temps. Cristiano, vous avez encore une petite question?
Oui, deux petits trucs, c'est à propos des grands-mamans. Merci pour la dédicace d'avant, j'étais en train d'écouter parce que je suis parti entre deux. Et puis deuxièmement, est-ce que tu as déjà essayé même mixer la soupe avec les pommes de terre, les carottes et tout?
Vous persistez.
Parce que ça passe plus facilement.
Oui, alors je rajoute beaucoup de crème, du gruyère râpé, et là ça passe. Mais c'est plus, réellement que de la soupe. Mais au moins, ça passe plus ou moins. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Mais ça va venir, hein, je me décourage pas.
Christine, très rapidement.
Très rapidement, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai marié un chaoui des Aurès en Algérie. La première fois que je suis allée chez lui, j'ai pas pris mon fils parce que j'avais peur de pas pouvoir ressortir du pays avec lui. Le grand-père, il m'a dit, tu marieras mon fils si tu sais cuisiner. Il avait vécu 17 ans en France. Il m'a sorti un énorme potiron, plein de légumes du coffre de la voiture, des piments, un gigot. Il m'a dit, maintenant, démerde-toi à la cuisine. J'ai vidé le potiron en forme de casserole avec le capuchon. J'ai les cuits dans du bouillon, ça a fait la casserole. Après ça, j'ai coupé en petits morceaux carrés tous les légumes qu'il m'avait amenés. J'en ai eu pour la matinée. Je les ai étuvés la même chose dans du bouillon. J'ai rempli la casserole, j'ai tassé. J'ai mis la casserole dans le four. Le gigot, je l'ai badigeonné avec du romarin et de la moutarde. Je l'ai fait tourner. Quand on a été à table et qu'on a enlevé le couvercle, on coupait des tranches, ça faisait comme des lunes avec les légumes par-dessus. À la fin du repas, le grand-père, il prenait la cuillère et il mangeait tout ce qui restait de la courge à la cuillère. Et il m'a dit, en 17 ans en France, j'ai jamais mangé comme ça.
C'est le festin de Christine.
C'était une idée qui m'a passé par la tête sur le moment.
Bravo, oui. Nathalie.
J'aurais aussi peut-être un petit conseil pour une recette. C'est la sauce Voronoff, qui est assez un peu bizarre par rapport à celle qu'on retrouve des restaurants.
Ouais.
C'est en faire revenir des échalotes avec du ketchup.
Ouais.
Je ne sais pas si vous la connaissez.
Voronoff, oui.
Voilà, maintenant avec du ketchup, de la moutarde, persil, romarin, du thym.
C'est original, là, le romarin.
Voilà, mettre de la sauce Winchester.
Voilà, oui. Beaucoup de goût. Vous aimez les goûts.
Beaucoup de goût. Tabasco.
Ah, vous aimez encore plus le goût.
Voilà, faire bien bouillir et puis mettre à la fin, ben, revenir faire des champignons frais.
Ouais.
Tout mélanger ça.
Ouais.
Un peu de crème à la fin et puis verser ça sur un filet d'agneau.
Eh ben, c'est parfait.
Magnifique.
Voilà. Mignon, pardon, filet mignon.
Ouais, voilà, ben, bravo. Bravo. Voilà.
Ramzi.
Alors moi, ce ne sera pas une recette, c'est une question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous conseillez à tous les jeunes adolescents qui souhaitent se lancer comme vous dans la cuisine.
Comme métier ou pour la vie, pour non, cuisiner, pour
comme
soi.
Métier plutôt.
Alors, ça c'est une très bonne question. C'est-à-dire que déjà c'est un vrai métier. Donc c'est pas un travail qui est inutile. En plus, la cuisine, elle peut être appliquée dans les restaurants, elle peut être appliquée dans des collectivités, elle peut être appliquée dans plusieurs structures différentes. C'est un métier qui sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle qui arrive, soi-disant. Et c'est sûr que là, c'est un vrai métier. C'est une vraie profession. Bon, moi, je la pratique de façon artisanale. Donc, c'est sûr que quand on est une grande structure, c'est plus de l'artisanat. Mais de façon artisanale, c'est un vrai métier qui est ample, qui est infini, qui est profond, qui donne une place. Par contre, c'est des métiers qui ont des contraintes. On travaille un peu plus que les autres, on est debout. Mais voilà, quoi, quand on aime quelque chose, qu'on est dans une ligne sur de l'artisanat, tous ceux qui font de l'artisanat, il y a beaucoup de contraintes parce qu'il faut apprendre des gestes. Puis après, ça dépend où vous allez, si vous allez sur des chefs qui sont plus ou moins exigeants. Nous, on forme des jeunes. On a aussi toujours une place qui est ouverte pour des jeunes qui ont des difficultés scolaires. Donc, ça nous permet de réintégrer aussi des personnes dans la société, mais une à la fois. On n'est pas une institution, on n'est pas une institution spécialisée. On prend ça sur notre temps et puis sur notre possibilité. Puis il faut aussi que la personne ait des capacités qu'on, nous, on puisse imaginer qu'on puisse aller avec eux un bout. Parce que si on voit qu'il y a trop de difficultés, ben c'est sûr qu'après, c'est, nous, on doit quand même produire. On a des clients qui sont là. On ne travaille pas dans le vide, disons. Voilà. Mais voilà, si j'ai répondu à votre question. Mais c'est un beau métier. Le métier aussi de la restauration, il y a du service dedans. Le métier de formation de service, c'est un métier qui apprend à la vente, qui apprend à se tenir, qui apprend à répondre à des situations, de diverses situations, des demandes des clients. C'est une belle formation de base, je dirais, pour quelqu'un qui voudrait ou voyager ou travailler dans des métiers dans la vente ou dans la communication. Ça peut être une formation.
Alors, il y a encore plein de questions, mais on arrive gentiment au terme de cette émission. Je vais d'abord passer le micro à Cristiano et après revenir vers vous, Christine.
Alors, pour justement demander un truc aussi à propos justement de ce qui vient de poser comme question Ramzi. À propos justement des jeunes en difficulté, c'est un peu pour tout le monde ou pas forcément ?
Bon, alors nous, on est une mini-mini structure, c'est-à-dire on a une place qui se libère tous les 3 ans. Donc les personnes viennent chez nous, on discute, on regarde. Souvent, c'est l'école qui nous les envoie ou bien des formations. Et puis après, il faut aussi que la personne soit dans l'entourage de la région parce qu'on ne peut pas loger des gens. On n'a pas structure fermée ou autre, de contrôle. Donc il faut qu'il y ait une forme d'autonomie aussi. Et puis après, à partir de là, les jeunes font des stages, viennent chez nous. Puis après, s'ils ont des capacités ou des envies, on regarde. Alors, il y a des formules avec le CFC, il y a des formules avec la formation élémentaire. Là, on en a un qui vient de commencer en formation élémentaire, qui va très bien, parce qu'on pensait que les problèmes scolaires allaient être trop importants, parce que quand il y a des grandes difficultés à l'école, souvent, elles sont là dans l'apprentissage. Donc, on essaie de les aplanir comme ça.
Oui, et encore un petit truc, ouais. C'est la prochaine place, elle se libère quand? Comme ça, je sais une date à peu près.
Dans 2 ans, on aura une place qui va se libérer. Là, on a 2 personnes là, qui sont en formation maintenant. Et puis voilà, quoi.
D'accord, merci beaucoup.
Merci à vous.
Christine, très très court, parce qu'on est au
c'est
terme
très
de
court,
l'émission.
J'aimerais juste faire un tour de table pour que chacun nous dise quel est son plat préféré.
Oh, alors passer chez Cristiano, c'est une bonne
alors,
question.
Alors personnellement, c'est les épinards. C'est mon légume préféré avec des piquettes de dinde.
Ah bah ouais.
Et puis, peu importe le féculent.
Ouais. Anouchka.
Alors, je vais rester dans du basique. Je dirais qu'il y en a plein de mes plats préférés, mais je vais rester sur la fondue à la tomate.
Marro.
Alors, pour moi, le dernier que j'ai fait, c'est un rösti dans une vieille poêle en fente avec des légumes au milieu. Et puis, c'est grillé des deux côtés. C'est très croustillant et ça se mange comme plat unique.
Ramzi.
Alors, pour moi, ça s'appelle tekelbabine. C'est un plat algérien de la Kabylie.
Et ça consiste en quoi?
C'est en gros des boules de semoule qui sont généralement, on nous les sert dans l'assiette et nous, après, on les coupe en dés. Et par-dessus, on verse un jus avec des légumes, de la viande, ça peut être de l'agneau, du veau, par exemple.
Mano, vous avez un plat préféré?
Oui, les cannelloni de la mamma.
Voilà. Qui rejoignent les lasagnes de Nathalie.
Non, c'était la bolognaise.
Ah, la bolognaise. La bolognaise. Bah, écoutez, merci Christine. Un plat préféré?
Mon plat préféré, à moi?
Oui. Oups.
Le couscous de Nana Zora.
Eh bien voilà, merci beaucoup.
J'ai été le faire aux Aurès et j'ai appris à faire la semoule, j'ai appris à faire la galette et
magnifique.
J'ai appris à faire la rissa.
C'est magnifique. Merci à toutes et tous d'être venus autour de la table
merci
de Pavillon Nomade. Merci Marro Capelli. Cette émission est disponible sur le site www.pavillonnomade.ch. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même lieu. Et vous pouvez noter d'ores et déjà dans votre agenda l'émission spéciale du samedi 6 décembre avec comme grand invité Saint-Nicolas. Si vous êtes de passage à Montel-le-6, venez à la buvette du quartier culturel découvrir ses festivités. Merci, je le répète, à vous toutes et tous autour de cette table. Merci à Dominique, Pascal et Julien. Et on se quitte avec une très jolie chanson interprétée notamment par Angela Lansbury, actrice culte du cinéma et des comédies musicales hollywoodiennes. Cette chanson est extraite d'un magnifique film d'animation des studios Disney, La Belle et la Bête. La chanson s'intitule « Be our guest ». Soyez notre invité, ce que vous avez été, Marro Capelli. Merci.
Merci.
Merci bien.
That we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, chérie, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France, and a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Beef ragout, cheese soufflé, pie and pudding on flambé. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks.
Put it all in perfect taste that you can bear.
Come on and lift your glass, you've won your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Suddenly those good old days are gone. 10 years we've been rusting, needing so much more than dusting. Needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Flabby, fat and lazy, you walked in and oops-a-daisy.
It's a guess, sakes alive, and I'll be blessed. Wine's been poured and thank the Lord, I've had the napkins freshly pressed. With this and she'll want tea, and my dear, that's fine with me. While the cups do this, I'll shoo it, I'll be bubbling, I'll be brewing. I'll get warm, I'll be hot. Heaven's sake, is that a spot? Clean it up. Got
what a lot to do. Is it one love or two for you, our guest?
She's our guest.
She's our guest.
We are guests. We are guests. We are guests.